missionné et le président Napolitano invente le gouvernement Monti. Donc il y a quand même, il est dans son rôle.
Il est dans
mais
son
c'est
rôle,
vrai,
sauf que...
voilà, c'est vrai que nous sommes là, disons à l'extrême limite de l'exercice de ses fonctions et du rôle politique
alors,
qu'il peut jouer.
Il y a le refus du ministre, c'est une chose, et puis c'est le ministre symbolique et on y viendra d'ailleurs. Et puis il y a la nomination quand même d'un président du Conseil qui est finalement l'exact inverse de ce pourquoi les gens ont voté. C'est ça aussi qui a provoqué, j'imagine, une forme de colère. Cotarelli, c'est le FMI, c'est l'austérité, c'est l'inverse. Quoi.
C'est sûrement l'inverse. Bon, il ne faut pas trop surestimer ça, c'est-à-dire que là, c'est vraiment un gouvernement de très courte transition qui se forme. Hein. Mmh. On parle, c'est un gouvernement qui n'aura certainement pas la confiance du Parlement quand il se présentera face au Parlement dans quelques jours. Et donc, il y aura de nouvelles élections en Italie au mois de septembre ou au mois d'octobre.
Alors justement, est-ce que vous
c'est
dites...
C'est simplement que techniquement, là, on ne peut plus organiser des élections avant l'été. Alors, ce n'est plus techniquement possible.
C'est ça. Mais alors, est-ce que vraiment c'est pour après l'été, donc effectivement, août-septembre ou quelque chose dans ce goût-là, ou début 2019, parce qu'on entend ici et là que les choses pourraient finalement traîner
non,
plus longtemps.
Ça, c'est l'hypothèse que le Premier ministre qui a été chargé de former le gouvernement a fait au cas où il aurait une majorité au Parlement. C'est-à-dire, il a dit, je vais me présenter au Parlement, si je n'ai pas de majorité, il y aura, évidemment, mon rôle sera un rôle purement
d'expédier les affaires courantes.
Des affaires courantes. Par contre, si je devais avoir, même dans le cas où je devais avoir une majorité, je ferais la loi de bilan dans ce cas, mais il y aurait de toute façon, je remettrais mon mandat au mois de janvier. Mais ce n'est pas du tout c'est un cas d'école, si vous voulez. Bon, il ne peut pas partir en disant, de toute façon, je n'aurai pas la confiance. Mais il y aura un vote, au tout début de l'automne.
Alors, on va venir à ce vote-là. À quoi faudrait-il utiliser ce temps d'ici à l'été, on va dire? Le commissaire européen au budget a dit qu'il fallait en profiter pour convaincre les Italiens, et notamment du bien fondé de l'euro. Est-ce que c'est vraiment à ça que doit servir ce laps de temps-là? Est-ce qu'il y a quelque chose à jouer pour le Parti démocrate de Renzi, notamment, dans ce laps de temps-là?
Il y a énormément à jouer, mais il faut revenir au sens le plus profond de l'intervention du président de la République. Quand il est intervenu hier face aux caméras, il a dit dans la substance, si on sort des formes, il a dit dans la substance... ce gouvernement avait l'intention, à travers la nomination de ce ministre qui a fait de la sortie de l'euro, disons, son cheval de bataille et sa marque, il avait l'intention de sortir de l'euro sans le dire et sans qu'il y ait eu une campagne électorale sur ça.
Parce qu'on va rappeler que ce n'est pas dans le programme, la sortie de l'euro techniquement n'est pas dans le programme.
Et sans que ce soit écrit dans le programme. Et donc, le vrai problème que le président de la République a posé, c'est de dire si on veut véritablement prendre une décision aussi lourde de conséquences, il faut quand même qu'il y ait un vrai débat politique, il faut qu'il y ait une campagne électorale où des forces s'affrontent sur ce thème, et puis éventuellement, évidemment, ça deviendra légitime si les forces anti-euro gagnent de faire ce choix-là.
Donc, Dame Poli, ça veut dire qu'il faut le faire, j'allais dire, à la française, c'est-à-dire comme ce qui s'est passé dans notre campagne chez nous, voulez-vous oui ou non, sortir de l'euro? Il faut reposer ces questions-là. Est-ce que ça peut vaguement changer la donne pour les prochaines élections ou pas?
Oui, c'est-à-dire, il faut encore, c'est tout à fait à démontrer qu'il y ait en Italie une véritable majorité des électeurs qui veulent prendre le risque aujourd'hui de sortir de l'euro. Ce n'est vraiment pas prouvé du tout. Et d'ailleurs, justement, c'est l'expérience que vous avez vécue en France nous dit quelque chose là-dessus. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ni la Ligue ni le mouvement 5 étoiles n'ont fait de campagne sur ce sujet au cours des dernières élections. C'est-à-dire ils avaient eu avant des positions qui étaient effectivement plutôt qui allaient dans ce sens-là, mais ni l'un ni l'autre ont fait une campagne électorale en disant si on gagne, on va sortir de l'euro. Ils ont même dit le contraire.
Donc il faut faire quoi? il faut les mettre face à cette contradiction-là, c'est-à-dire la nomination qu'ils voulaient par rapport au discours. Est-ce qu'il y a moyen, je posais la question tout à l'heure, est-ce qu'il y a une fenêtre, en gros, pour le Parti démocrate, pour essayer de gagner quelques voix ?
Oui, il y a sûrement une fenêtre pour le Parti démocrate pour quand même être au front, disons, d'une coalition plus large qui va se former pour s'opposer de façon frontale à cette idée-là. Après, malheureusement, nous sommes en Italie, enfin, heureusement que nous y sommes,
mais je comprends ce que vous êtes en train de dire.
Vous voyez ce qu'on dit de l'Italie, de la politique italienne, si vous avez compris, ça veut dire qu'on vous a mal expliqué. Alors, malheureusement, la campagne électorale, elle ne va probablement pas être si claire que ça, parce que les autres, la Ligue et le Mouvement 5 étoiles, ne vont quand même probablement pas faire campagne sur le thème de l'euro. Ils vont par contre exploiter un sujet différent. Ils vont dire on ne permet pas à l'Europe de nous imposer ses ministres, des choix. Et donc, ils ont un argument qui est fort.
Le déni de démocratie, c'est un argument.
Exactement. Ils vont aller sur ça. Je ne pense pas qu'ils vont aller sur l'euro. Ils vont, comme d'habitude, être plus vagues.
Mais Giuliano D'Ampoli, objectivement, lorsqu'ils ont voté, les Italiens voulaient renverser la table. Et au fond, quelle que soit la manière dont ils renversent la table, la preuve d'ailleurs, que ce soit à la gauche avec le mouvement 5 étoiles ou à droite avec la Ligue, cette volonté de renverser la table, est-ce qu'elle n'est pas décuplée aujourd'hui qu'on interdit un gouvernement tel qu'il l'aurait souhaité ?
Je crois qu'il y a ce risque. D'ailleurs, nous en avions parlé la dernière fois. Moi, je pensais qu'un gouvernement Ligue 5 étoiles était effectivement la seule façon, d'une certaine façon, d'être cohérent par rapport à ce que les électeurs avaient exprimé.
Comme ça, c'est fait, d'une certaine façon.
Mais il est vrai qu'on ne s'attendait quand même pas que leur première option, dès le début, soit une sortie qui vraiment là s'annonçait rapide de l'euro, parce qu'il y avait des mouvements sur les marchés financiers que les deux partenaires de gouvernement au lieu d'essayer de rassurer ils ont foncé en disant ça c'est la domination des banquiers et des Allemands qui veut nous renverser. On nomme un ministre qui va nous sortir de l'euro, parce que fondamentalement, c'était ça. Bon, franchement, effectivement, là, on peut quand même dire nous sommes dans un système où il y a beaucoup de contre-pouvoirs. La majorité ne gagne pas tout de suite. On est quand même dans une république parlementaire qui est née après la guerre, avec des systèmes de contre-pouvoirs pour faire que le respect de la Constitution passe avant, qu'il y ait quand même des sauvegardes.
Mais
Donc, à terme, ça ne va pas bloquer. Si les Italiens confirment leur choix, ça ne va évidemment pas... Mattarella ne va pas pouvoir refaire le même numéro la prochaine fois.
Oui, mais alors justement, est-ce que quand même... parce que le risque, effectivement, c'est la balle dans le pied. Ça veut dire que, notamment, les électeurs de la Ligue sont tellement remontés qu'ils votent encore plus.
Ouais.
Et même à une majorité qui aura, là, cette fois plus de sens. C'est un vrai risque, non ?
D'ailleurs, encore une fois, justement, c'est
peut-être
c'est
plus pour la Ligue que pour le mouvement 5 étoiles, d'ailleurs.
Voilà, le mouvement 5 étoiles est quand même un peu plus en difficulté parce qu'il a été mis face à certaines de ses contradictions et certaines ambiguïtés, notamment sur la colocation à gauche, à droite, à l'extrême gauche, à l'extrême droite. Bon, en s'alliant avec la Ligue, évidemment, là, ça a un peu explosé. Et d'ailleurs, le consensus qu'ils ont, donne l'impression dans les sondages qu'on a d'être en train de se réduire. Il faut considérer que les deux mouvements n'iront presque certainement pas aux prochaines élections alliés entre eux. La Ligue sera alliée à nouveau probablement de Berlusconi qui va jouer ce rôle comme ça de grand-père modérateur et du parti d'extrême droite des Fratelli d'Italia. Donc en réalité la perspective la plus possible Hein, je ne vais pas dire probable, mais quand même la plus possible sur la base des chiffres que nous avons aujourd'hui, c'est que cette alliance de droite, mm-hmm. et donc non pas Ligue et Cinque mm-hmm. Stelle, mais l'alliance de droite portée par la Ligue, qui
est effectivement... On va dire une vraie droite, plus dure et claire.
Oui, mais en même temps, dans ce cas-là, par exemple, la sortie de l'euro serait quand même beaucoup moins actuelle, mm-hmm. parce que là, par contre, Berlusconi jouerait un rôle qui probablement empêcherait, du moins au début, disons, du moins si les choses se passent bien.
Un Berlusconi Giuliano D'Ampolo qui a été un peu mouché quand même la dernière fois, on l'a senti oui. un peu atteint. Est-ce que là, il a une carte à jouer, Berlusconi, par exemple, en se disant « ça, c'est mon moment, moi ».
Il a en plus une carte judiciaire à jouer, mm-hmm. c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas être candidat parce qu'il y avait une sentence, un jugement qui pendait sur lui et que lui empêchait de façon légale d'être candidat. Et là, maintenant, ça c'est tombé. Mm-hmm. Et donc, il peut lui-même être candidat au Parlement, éventuellement. Mm-hmm. Bon, il n'a plus le leadership de la droite. Hein, Salvini, là, la Ligue mm-hmm. a pris tellement de poids et de force et ces derniers
mais
événements.
Même ce laps de
temps-là,
l'été
encore.
Qui va venir, ça ne peut pas lui permettre à Berlusconi de refaire, de se rapprocher de Salvini vraiment et d'être même un danger pour lui.
À mon avis, là, Salvini, effectivement, il était déjà plus fort il y a quelques mois. Il s'est encore beaucoup renforcé. Mmh. Il va pouvoir faire à fond cette campagne de déni de démocratie, etc. Mmh. J'ai l'impression que, malheureusement, d'une certaine façon, aujourd'hui,
ouais.
Berlusconi, en Italie, il s'est transformé en Bismarck. Hein, c'est curieux, les cycles de l'histoire. C'est lui, aujourd'hui, un facteur quand même de stabilisation et de modération du système. Mais j'ai l'impression qu'il aura un rôle. Il peut même peut-être faire un meilleur score par rapport à ce qu'il a fait au mois de mars. Mais le leadership de la droite aujourd'hui, il est quand même fermement dans les mains de Matteo Salvini et
juste
de la Ligue.
Une dernière chose, est-ce que vous qui étiez proche de Renzi, au fond, qu'est-ce que vous préféreriez? C'est-à-dire ce que vous disiez la dernière fois, un gouvernement assez mal fagoté entre 5 étoiles et la Ligue, dont on sait qu'il n'aurait eu qu'une durée de vie finalement assez limitée, ou une droite beaucoup plus franche que vous décriviez à l'instant, qui là pour le coup a peut-être plus de chances de durer.
Bah écoutez, bon, franchement, c'est des choix
entre votre main gauche et votre main droite.
Voilà,
c'est
très dur. Mais il faut dire comme vous le disiez, le gouvernement aurait peut-être duré très peu, mais là le risque d'un scénario grec qu'on n'imaginait quand même pas, qu'on imaginait même pas il y a 15 jours, il est devenu très concret au cours des derniers jours. Et donc l'idée quand même d'avoir un gouvernement Ligue 5 étoiles qui, un peu par incompétence et un peu par irresponsabilité et un peu par choix, parce que c'est un choix de la Ligue, 5 étoiles moins, mais de la Ligue sans aucun doute, qu'il nous fasse sortir de l'euro de cette façon. Parce que vous savez, je ne veux pas du tout rentrer dans la discussion technique, mais il suffisait encore d'un downgrade de notre dette publique pour que même la Banque Centrale Européenne ne puisse plus intervenir. Donc nous étions quand même relativement proches d'un possible scénario grec. Ça aurait été quand même franchement le pire.
Bah écoutez, le pire est toujours à venir, comme on dit.
Giuliano
D'Ampoli,
bon,
merci beaucoup. Vous reviendrez évidemment dans Un jour dans le monde. Elle n'est pas finie, cette histoire italienne. Très loin de là même. Merci beaucoup.
Au revoir.
France Inter. Fabienne Synthèse. Un jour dans le monde.
La suite d'Un jour dans le monde, c'est en Jordanie où un gazoduc oblige à coopérer avec Israël. Ça n'est pas du goût évidemment des nombreux Jordaniens et réfugiés palestiniens de Jordanie. À suivre aussi sous les radars, et Florence Paracolos qui fait la manche 2.0 notamment. Ça se passe en Grande-Bretagne. Le Monde selon Trump, saison 2. Grégory Philips, bonsoir Grégory.
Bonsoir Fabienne.
Le Monde selon Trump avec des vrais morceaux de Stallone à l'intérieur.
Oui, Stallone qui est venu défendre à la Maison Blanche le boxeur Jack Johnson. J'ai cru comprendre qu'en ce moment, aujourd'hui, le mot en France était héros. Bah, je vais vous parler de héros américains aussi, avec ce boxeur, avec les soldats américains tombés au front, et puis John McCain, un héros américain aussi.
Allez, à tout à l'heure, Grégory. Le Monde à l'envers. Jean-Marc Faux, bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Vous voulez qu'on regarde le bon coréen, vous, ce soir?
C'est ça, il faut toujours s'intéresser au troisième homme, hein, dans le dossier coréen. Oublions Trump, oublions Kim, et intéressons-nous au sud-coréen, Moon Jae-in.
Allez, à tout de suite. Le tour de la planète continue avec les Doors, Light My Fire. You know
would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time you hesitate is through. No time to wallow in the mire. China, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on. Time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Shiny symphony.
Inusable sur France Inter, Light My Fire. Florence Paracolos est là sous les radars.
France Inter.
Good evening and welcome.
Я размахивал копьем.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Florence, vous nous emmenez au Nicaragua pour commencer, secoué par 5 semaines de manifestations contre le président Ortega.
Et le bilan est déjà lourd. 84 morts. Tout a commencé par une réforme des retraites. Les rues se sont remplies contre une augmentation des cotisations. Le projet a été rapidement abandonné, mais les manifs ont continué contre Daniel Ortega. Ortega, c'est un ancien guérillero de 72 ans. Il en est à son 4e mandat de président du Nicaragua. Et il a bien changé depuis la révolution sandiniste qui a renversé la dictature en 79. Quand il prend le pouvoir à ce moment-là, son modèle c'est Fidel Castro. Il applique une politique marxiste pendant une dizaine d'années, à l'opposé de ce qu'il fait depuis qu'il est revenu au pouvoir en 2007. Sa doctrine désormais serait plutôt celle du FMI. Et puis Ortega, il n'est pas tout seul. Il a sa femme, Rosario Murillo, poétesse baroque, nommée vice-présidente, et leurs enfants qui occupent des postes importants dans la politique, dans l'économie, dans les médias. C'est avec ce système Ortega qu'une partie du pays qu'une partie du pays vit en finir désormais, à commencer par ses anciens camarades sandinistes. Voilà ce que dit l'ex-guerriera Monica Baltodano. C'est un couple qui ne veut pas lâcher le pouvoir, qui s'est enrichi pendant que la grande majorité vit dans la misère. Son projet, c'est enrichir le grand capital, engraisser les banquiers, ce qui n'a plus rien à voir avec la révolution ou avec la gauche. Mais je crois qu'une partie de sa base est en train de s'en rendre compte grâce à l'immense sacrifice et au sang versé par les victimes de la répression. 84 morts donc, et une haine qui grandit contre ceux qu'on surnomme Lord et Lady Macbeth ou encore Frank et Claire Underwood, les héros maléfiques de House of Cards. 63% des Nicaraguayens demandent leur départ. Washington condamne les violences perpétrées par des voyous contrôlés par le gouvernement. L'Organisation des États américains demande des élections anticipées. Mais pour l'instant, il ne se passe rien. Le dialogue est au point mort.
Florence, on change de continent, de sujet, d'atmosphère, de tout. Nous partons pour Londres, où on peut donner des sous aux musiciens de rue avec sa carte bleue.
Et oui, pas de monnaie pour remercier et encourager ce formidable guitariste de Victoria. Vous sortez la visa et vous la passez devant le terminal sans contact posé au pied du musicien. C'est le maire de Londres, Sadiq Khan, qui a commencé à distribuer ces terminaux pour que la ville conserve son statut de capitale mondiale de la musique. Il est fondamental, dit Mr. Khan, que nous soutenions les stars de demain. Et manifestement, ça marche. Cette jeune fille s'appelle Charlotte Campbell. Elle essaye le système depuis 15 jours sur les quais de la Tamise et ça lui rapporte beaucoup plus d'argent, c'est ce qu'elle dit.
Elle chante très bien, par ailleurs. Chanteur de rue 2.0. Enfin, il y a ceux qui n'ont pas du tout besoin de ça. La machine à cash tourne à plein pour BTS, qui n'est pas du tout un diplôme qu'on obtient après le bac. Non, c'est un groupe sud-coréen.
Et oui, voici les rois de la K-pop, Fabienne, en tête des ventes d'albums, streaming compris, aux États-Unis. C'est une première pour un groupe made in Séoul. Sept garçons au visage lisse de poupées, sept ados qui chantent essentiellement en coréen et qui parlent au monde entier. Leur nom aurait été mentionné deux fois plus en 2017 sur Twitter que ceux de Trump et Justin Bieber réunis. Suga, J-Hope, Rap Monster, Jimin, V, Jungkook et Jin, bah oui, ils sont sept, ça prend un peu de temps à dire, au sommet des charts américains avec eux, la K-pop est totalement sortie du folklore.
Bah ouais, c'est, la Corée est devenue tellement tendance. En même temps, Florence Paracuelos, merci, à demain.
France Inter,
Doha, Harare, Jérusalem, Mecca,
le 18-20,
le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde,
Séoul, Washington,
São Paulo,
Beyrouth, France Inter.
Et c'est en Jordanie que nous emmène l'escale reportage d'un jour dans le monde pour une affaire de gazoduc. Un gazoduc qui doit permettre à la Jordanie d'importer du gaz exploité en Méditerranée. Mais pour qu'il arrive, la société qui exploite est américaine et le gazoduc relie Israël à la Jordanie. Deux raisons d'être en colère. Bonsoir Jérôme Borouzewski.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Travailler à la fois, Jérôme, avec les Américains et les Israéliens, une perspective peu réjouissante pour les Jordaniens et pour tous les réfugiés palestiniens qui peuplent une très grosse partie de la Jordanie. Nous sommes un peu au milieu de nulle part, on l'entend, et vous allez nous dire exactement où nous sommes.
À gauche.
Oui, oui.
The line will pass from here.
Le gazoduc va passer par là.
Go ahead, go ahead.
Continuez, continuez.
Below this street.
Sous cette route.
From here.
Depuis là.
Go ahead. And as you see, it's full of
Et comme
trees.
Vous le voyez, il y a ici beaucoup
crops,
d'arbres.
Onions.
Ici, ce sont des oignons.
Yes. Crops, okra.
Des gambas.
Vegetables.
Des légumes.
Et là, c'est du blé.
Wheat. Wheat.
Du blé.
It's rich soil.
La terre est fertile.
They will sell it cheaply. They will sell it cheaply.
Ils vont nous l'acheter à bas prix.
They will not give us.
À très bas prix.
The actual
Ils ne vont pas nous donner le prix du marché.
Stop.
Arrêtez-vous.
The line will pass from this.
Le gazoduc va passer de cette parcelle
and it will come here
à celle-ci, puis tout droit vers notre terrain.
And go straight forward to our land in the west.
À l'ouest.
This is an olive tree. C'est un verger d'olivier.
Right.
Oui, oui, c'est notre parcelle.
It is our land.
Mohamed Salim Al-Kouran a dû céder ce lopin de terre d'un demi-hectare situé à Ibsar Abu Ali, un petit village au nord de la Jordanie. Les oliviers qu'il avait plantés en 1982 sont toujours debout, mais ils ne sont plus à lui.
Mais c'est leur terre.
C'est
déjà leur terre. Nous sommes obligés d'accepter ce projet. Nous savons qu'ils ne vont pas nous dédommager, autant que nous l'espérons.
Mais vous m'avez dit précédemment que vous avez un avocat.
Oui, j'ai un avocat pour récupérer de l'argent, pas pour récupérer les terrains. Si vous n'engagez pas un avocat pour ce différent foncier, il vous croque et il vous donne une toute petite somme d'argent.
L'opposition au projet est faible. Elle est menée par des organisations professionnelles, les syndicats des médecins et des ingénieurs qui détiennent des parcelles sur le futur tracé du gazoduc. Ce jour-là, quelques ingénieurs se sont regroupés sur une colline balayée par le vent en pleine campagne, là où doit passer le pipeline. Le coordinateur du mouvement de protestation, Hicham Boustani, prend le micro.
Aujourd'hui, la Jordanie exporte du gaz et personne ne le sait. Mais la Jordanie exporte du gaz naturel liquéfié par son port, Aqaba. La Jordanie exporte vers l'Égypte. La Jordanie produit plus de courant électrique qu'elle n'en a besoin. Elle exporte donc de l'électricité en Irak et en Égypte, et désolé de le dire, à Jéricho, en Israël. Nous n'avons pas besoin de gaz, nous avons des ressources en énergie solaire, éolienne, nous avons du gaz de schiste, et beaucoup de gisements n'ont pas encore été explorés. Ce serait plus pertinent d'investir l'argent des Jordaniens dans notre propre pays, pas dans le pays des ennemis.
Cette manifestation ne rassemble qu'une trentaine d'ingénieurs. Ils espéraient défiler à Irbid, la ville voisine, mais les services de renseignement jordaniens les en ont empêchés. Une importante contestation sociale a agité Amman, la capitale, en début d'année. Les professeurs, les agriculteurs, les associations féministes ont manifesté devant le Parlement, mais pas les opposants au projet de gazoduc. Car leur contestation concerne les relations entre Israël, les États-Unis et la Jordanie, et c'est un sujet très sensible. Un sujet que souhaite éviter la représentation populaire, d'après Hicham Boustany.
Ce Parlement, c'est un désastre. Les députés ne nous parlent pas. Nous avons demandé des rendez-vous avec les comités de l'énergie et des finances. Ces comités ne nous ont jamais répondu. Nous pensons que cette législature est extrêmement faible, très soumise au gouvernement. Israël va contrôler 40% de l'électricité jordanienne et la population jordanienne va ainsi financer l'État terroriste israélien de cette manière. Cela est très dangereux d'après moi.
Au troisième étage du Parlement, le bureau de Moussa Hantash, un député d'opposition proche des frères musulmans. Il est très opposé au projet de gazoduc et il le confirme, le sujet est tabou.
Ce qui est important de comprendre, c'est que le Parlement n'a pas discuté de l'accord gazier, parce que le président du Parlement est sous pression. Il fait partie des institutions de l'État. Si vous le rencontrez et que vous lui demandez l'accord gazier, il va dire qu'il n'a pas la version traduite. Mais je sais qu'il l'a. J'ai rencontré la personne responsable du département des traductions et elle m'a dit que l'accord a été traduit et que la version traduite a été remise. Dire qu'il n'a pas la version traduite, c'est juste une excuse pour ne pas en parler. L'accord a été traduit de l'anglais à l'arabe il y a 6 mois.
Les opposants au projet se sentent délaissés par les institutions du pays. Résultat, le fossé se creuse entre la population d'un côté et le gouvernement jordanien de l'autre. Mais les organisations professionnelles reconnaissent qu'elles ont du mal à mobiliser. La population n'est pas prête à protester massivement de peur de déstabiliser le pays. Le chaos syrien, tout proche de la Jordanie, dissuade beaucoup.
Jérôme Borozewski pour Un jour dans le monde sur France Inter. Merci beaucoup. Voici Packet Courts, Wide Awake.
We'll be right back.
Houek sur France Inter. On file aux États-Unis.
France Inter.
I will work so hard.
Fabienne Saintès.
I promise you, it's going to change.
Un jour dans le monde.
Le Monde selon Trump, saison 2 et Grégory Philips. Grégory, au boulot, bravo, alors que c'est férié chez vous, si je ne m'abuse. Memorial Day, donc, jour férié pour rendre hommage aux soldats américains morts au combat, c'est ça l'idée?
Oui, week-end de 3 jours aux États-Unis à l'occasion de ce Memorial Day. Et donc ce matin, pour la 2e fois de son mandat, Donald Trump s'est rendu au cimetière d'Arlington, dans la banlieue de Washington. Vous savez, ces tombes blanches à perte de vue, environ 400 000 soldats reposent ici. Et comme le veut la tradition, dépôt de gerbes sur la tombe des soldats inconnus, discours, et puis un peu plus tôt dans un tweet, Trump avait rendu hommage à celles et à ceux qui sont morts pour le pays, mais en parlant aussi dans le même message de ses bons résultats économiques. Nice, point d'exclamation, vous voyez Fabienne, même dans les moments les plus solennels, Trump fait du Trump. Malgré tout, ce lundi est un jour de patriotisme et de communion nationale ici aux États-Unis. Depuis le 11 septembre 2001, 6940 soldats américains sont morts en service, moyenne d'âge 26 ans et demi. On notera que Donald Trump, depuis son arrivée à la Maison Blanche, ne s'est pas encore rendu sur un terrain d'opération extérieure, que ce soit en Irak ou en Afghanistan.
Allez Grégory, voici un destin extraordinaire, celui d'un boxeur, il s'appelle Jack Johnson. On l'a tous oublié, il est mort en 1946 et réhabilité par le président américain aujourd'hui.
Oui, Jack Johnson, formidable boxeur du début du XXe siècle, premier Africain-Américain à être sacré champion du monde en 1908, mais qui, 4 ans plus tard, avait été arrêté puis condamné à 1 an de prison pour avoir épousé une femme blanche. Jack Johnson a été l'idole de Mohamed Ali. Miles Davis lui a rendu hommage dans un album paru en 71. Et depuis des années, donc, les descendants du champion se battaient pour le réhabiliter. Eh bien, c'est chose faite depuis la semaine passée. Cérémonie à la Maison Blanche, jeudi dernier, en présence de Donald Trump, évidemment, et de son invité, Sylvester Stallone.
Je vais vous dire une chose, j'adore ces films, que ce soit Rambo ou Rocky. Je ne sais même pas vous dire lequel je préfère. Mais Sly est un type unique. D'ailleurs, il est plus timide que vous ne pensez. Tu veux dire un mot, Sly?
Je voudrais vous remercier, Monsieur le Président. C'est incroyable que vous ayez fait ça. Jack Johnson voyait la vie en grand. C'était un personnage incroyable et on l'a traité de manière tellement injuste. Ses trophées lui ont été retirés, mais il a toujours persévéré, toujours avec le sourire. C'est vraiment un personnage qui m'a inspiré. Ça faisait longtemps qu'on attendait ça. Merci de l'avoir fait. Et je pense à toi, Punching Jack.
Attendez, Grégory, je vais vous le refaire.
Fabienne.
Well. Oh.
Rencontre au sommet et félicitations traducteur pour la voix de Sly. Ce grand boxeur, Jack Johnson, réhabilité donc, et un geste du président des États-Unis à destination évidemment de la communauté africaine-américaine.
Alors, il y a un autre héros américain dont on a déjà parlé ici. On a probablement pas fini d'ailleurs, qui n'a pas forcément les faveurs de Trump, c'est John McCain. On sait qu'il est malade, le sénateur de l'Arizona. Il y a quelques jours était publié le dernier tome de ses mémoires et aujourd'hui, la chaîne HBO lui rend hommage.
Oui, et pour tout vous dire, Fabienne, c'est assez troublant parce qu'on sait que John McCain...
Son vivant quand même, ce monsieur, non ?
C'est un peu l'idée. 81 ans, il est atteint d'un cancer au cerveau et on sait qu'il mène sans doute là son dernier combat. Il est retiré en ce moment dans son ranch en Arizona. Et c'est vrai que depuis la publication de ses mémoires, il y a une semaine, on a un peu l'impression que les médias américains ont commencé à diffuser sa nécrologie. Exemple ce soir donc sur HBO avec ce documentaire « Pour qui sonne le glas ?», titre inspiré du roman d'Hemingway.
I've been tested on a number of occasions. I haven't always done the right thing, but you will never talk to anyone that is as fortunate as John McCain.
Voilà, la vie donc ici résumée de John McCain, prisonnier de guerre au Vietnam, sénateur de l'Arizona, candidat à la présidence en 2008 face à un certain Barack Obama, un héros américain au parcours politique inachevé mais audacieux. McCain qui a fait savoir que le jour où ses obsèques auront lieu, il ne veut pas la présence de Trump. On se souvient que pendant la campagne de 2015, Donald Trump avait eu des mots très durs à son égard. McCain n'est pas un héros, moi je préfère ceux qui ne se font pas capturer. La vie de John McCain, donc racontée ce soir en prime time sur HBO.
Allez Grégory Philips, correspondant de France Inter aux États-Unis, merci, à très vite.
Le 18-20, Fabienne Saintès. sur France Inter.
Le monde à l'envers et Jean-Marc Four. Jean-Marc, ira pas. Donald Trump change d'avis à peu près toutes les heures au sujet de Kim Jong-un, donc, et ce fameux sommet du 12 juin qui est censé se tenir à Singapour. Mais pendant qu'on focalise sur les deux hommes, peut-être qu'on en oublie un. C'est le troisième. C'est Moon Jae-in. Dans votre monde à l'envers, vous vous dites, attention, on est en train de passer à côté du véritable événement, c'est l'affirmation de la Corée du Sud.
Alors, vous vous souvenez de cette photo, elle a fait le tour du monde. La première rencontre entre Kim Jong-un et Moon Jae-in, les deux présidents nord et sud-coréens, franchissant la frontière symbole entre les deux pays le 27 avril dernier. Ce que l'on sait moins, c'est que ce jour-là, Moon, le président sud-coréen, avait quelque chose dans sa poche. Quoi donc ? Suspense. Il avait ceci.
Dites-moi.
Et je la sors moi aussi de ma poche, une clé USB. Non, c'est pas la même. C'est pas... Il l'a donnée discrètement à Kim Jong-un. Et qui avait-il dans la clé ? Un plan complet de restructuration économique de la Corée du Nord. Énergie, transport, tourisme, etc. Cette anecdote est révélatrice. Moon Jae-in est un malin. Mmh. À première vue, c'est vrai, on est obnubilé par les deux figures médiatiques, Trump et Kim, et puis leur goût partagé pour les coiffures improbables. Moon fait
ça,
un peu second rôle. Erreur, en fait, avec son regard souriant, ses lunettes cerclées, un faux air d'Harry Potter sexagénaire. C'est lui la révélation de cette séquence diplomatique. Qui est Moon ? Il a été élu président l'an dernier, deux jours après Emmanuel Macron. Ça explique aussi pourquoi il est passé inaperçu ici en France. Ses parents sont venus du Nord au moment de la fin de la guerre de Corée en 1953 et avant d'entrer en politique, il était avocat, défenseur des droits de l'homme. Il est réputé de centre-gauche et très populaire chez lui pour son intégrité. Par exemple, il paye lui-même ses repas à la Maison Bleue, c'est le nom du palais présidentiel à Séoul.
Alors sauf, Jean-Marc, dans cette affaire, on a l'impression qu'il sert de go-between en fait, c'est le messager entre Trump et Kim, non ?
Et c'est là qu'on se trompe un peu. Évidemment qu'il est le funambule, si vous voulez, qui parvient à faire la jointure entre deux leaders imprévisibles, mais il est davantage que ça. Il est d'abord en train de poser un acte politique d'autonomie vis-à-vis de Washington. Et ça, c'est un fait majeur pour la Corée du Sud. Relisons attentivement ses propos. Lors de son élection, il déclarait « Les problèmes de la Corée doivent être traités par la Corée ». Ça veut dire quoi ? Qu'il estime ne pas avoir besoin du feu vert de Washington pour agir. D'ailleurs, il ne l'a pas sollicité pour revoir Kim avant-hier et relancer ainsi le dialogue interrompu par Trump. Et avec le président nord-coréen, que dit-il ? Ils évoquent ensemble, écoutez bien, la volonté mutuelle d'une dénucléarisation complète de la péninsule. Traduction, si désarmement il doit y avoir, il doit être non seulement du côté nord-coréen, mais aussi du côté des États-Unis, du côté du parapluie nucléaire américain en Corée du Sud. Ça s'appelle commencer à couper le cordon ombilical avec Washington. Si on force un peu le trait, on pourrait dire que Kim et Moon font front commun face aux caprices de Trump. Et d'ailleurs, une nouvelle séance de négociations entre les deux Corées est déjà prévue vendredi, indépendamment des États-Unis.
Et puis il y a un autre grand frère là-dedans, Jean-Marc, dans cette histoire de famille un peu bizarre, c'est la Chine.
Absolument, et là encore, la Corée du Sud est en pleine affirmation de son autonomie. Je m'explique, la Chine est le premier partenaire commercial de la Corée du Sud, et en même temps, la Chine voit d'un mauvais œil le rapprochement économique entre les deux Corées. Est-ce que ça freine Séoul ? Pas du tout. Déjà, avant même la signature d'un traité de paix, plusieurs projets sont à l'étude entre les deux Corées, sur la pêche, les transports, la culture. Beaucoup de ces projets doivent d'ailleurs figurer dans la précieuse clé USB. Exactement. Alors vu d'ici, on sous-estime la Corée du Sud. Ses grands voisins, la Chine, le Japon, sont plus visibles, mais Séoul est déjà un grand. 11e économie mondiale, 3% de croissance, industrie de pointe dans la haute technologie, population avec une espérance de vie identique à celle de la France. Soft power en plein essor, on en parlait tout à l'heure avec Florence Paracuelos, la musique, le cinéma, etc. La Corée du Sud peut même se prendre à rêver d'une réunification économique à terme avec le voisin du Nord. On se résume. En vitrine, il y a le match États-Unis-Corée du Nord. En coulisses, il y a surtout l'affirmation de la Corée du Sud.
Le monde à l'envers de Jean-Marc Four et l'autre Corée. Jean-Marc, à demain dans un instant, la suite de 8h20.